Chapitre 13. En fin d'après-midi, Victor, Nietzsche, Cara et Richard s'engagèrent dans le grand bosquet d'oliviers qui couvrait tout le flanc sud d'une colline, juste à la lisière d'Alterrang. Le sourcier n'ayant jamais ralenti le pas, ses trois compagnons étaient épuisés par le court mais difficile voyage qui les avait conduits jusque-là. La pluie froide avait été chassée par une vague de chaleur humide. Ruisselant de transpiration, Richard et les autres auraient été à peine plus trempés s'il avait toujours plu. Même si la marche forcée l'avait éprouvé, Richard se sentait bien mieux que la veille et l'avant-veille. Chaque jour, un peu de ses forces lui revenait malgré le régime épuisant qu'il s'imposait. Il était aussi soulagé que la bête n'ait pas donné signe de vie. À plusieurs occasions, il avait joué les arrière-gardes pour s'assurer qu'on ne les suivait pas. N'ayant rien repéré d'inquiétant, il respirait plus librement depuis quelques heures. Cependant, une question se posait. La mort des hommes de Victor était-elle vraiment liée au monstre que l'empereur tentait de créer? Car même s'il avait réussi, rien ne prouvait que cette fameuse bête se soit déjà mise en chasse. Cela dit, si elle n'était pas coupable, qui avait donc pu perpétrer un tel massacre? Des chariots et des piétons arpentaient toutes les routes qui entouraient la cité. Apparemment, le commerce fleurissait de plus en plus en Alterrang. Pas mal d'hommes et de femmes reconnaissaient Victor ou Nietzsche, car tous les deux avaient joué un rôle important en ville depuis la révolte. Richard ne passait pas inaperçu non plus. Certaines personnes l'identifiaient parce qu'elles l'avaient vu le soir où tout avait commencé, sur l'esplanade du fief. D'autres ne l'avaient jamais rencontré, mais se fiaient à son épée. L'arme n'était pas commune, et les fourreaux si richement ornés ne couraient pas les rues, surtout dans l'ancien monde sous le règne austère de l'ordre impérial. Les gens souriaient aux quatre voyageurs, les saluant d'un petit geste ou soulevant leur chapeau. Comme de bien entendu, Cara jetait un regard soupçonneux à tous ces assassins potentiels, selon elle en tout cas. Richard aurait été ravi de voir la renaissance d'Alterrang, mais des préoccupations plus importantes l'empêchaient d'en prendre vraiment conscience. Pour faire face à ses problèmes, il avait besoin de chevaux. Mais quand il en aurait trouvé, sans compter l'achat de vivres et d'équipements indispensables pour un si long voyage, il serait bien trop tard pour repartir. Non sans maugréer, le sourcier avait dû se résoudre à passer la nuit en Alterrang. Les gens qui allaient entrer en ville venaient des agglomérations environnantes et de villages beaucoup plus lointains. Quelque temps plus tôt, ils affluaient avec le vague espoir de trouver un emploi pénible et mal payé sur le grand chantier de Jagang. Aujourd'hui, ils savaient qu'une vie nouvelle les attendait dans la cité. Une vie d'hommes et de femmes libres. Les divers marchands qui partaient d'Alterrang n'emportaient pas que des produits destinés à la vente. Ils colportaient des idées, la plus importante de toutes étant que souffrir sous le joug de l'ordre n'était pas un destin inévitable. Depuis la Révolution, les gens ne vivaient plus dans la peur et se sentaient de nouveau en mesure de modeler leur existence selon leurs propres aspirations. Grâce à deux outils formidables, la liberté et le désir d'entreprendre, leur vie leur appartenait et ils n'avaient plus le sentiment d'avoir une dette envers le pouvoir. Les armes pouvaient aider les tyrannies à tenir debout, mais pour cela, il fallait que de telles idées soient étouffées dans l'œuf. Car la philosophie de l'oubli de soi et du sacrifice ne résistait pas longtemps à la froide analyse d'esprits indépendants et lucides. Du coup, même la brutalité ne pouvait pas tout. Pour écraser l'idéal de liberté, l'ordre devrait envoyer ici ses plus sauvages soudards et leur ordonner de ne pas laisser de survivants. Sinon, la liberté déferlerait sur l'ancien monde comme un raz-de-marée. C'était inéluctable. Richard remarqua que des étals avaient fleuri partout, là où il n'y avait naguère que des terrains vagues et des routes quasiment désertes. Les vendeurs ambulants proposaient tout, des légumes, de la viande, du bois de chauffe, des bijoux. À la lisière de la ville, la nourriture remportait un succès écrasant. Affamés, les visiteurs se jetaient sur les saucisses, le pain et le fromage qu'on leur proposait pour un prix des plus raisonnables. Plus loin, là où se dressaient les premières maisons, les vêtements et les articles en cuir tenaient le haut du pavé. À l'époque où Nietzsche l'avait amené de force en Alterrang, il fallait faire la queue toute la journée pour obtenir une miche de pain, à condition que la production quotidienne du boulanger n'ait pas été vendue trop rapidement. Afin que tout le monde puisse acheter du pain, Les boulangeries devaient se soumettre à des règles strictes, les prix étant fixés par toute une théorie de comités, de bureaux et d'instances de surveillance. Le coût des matières premières et du travail n'entrait pas en considération, car seul comptait le prix que les gens pouvaient se permettre d'acquitter. Le pain n'était pas cher, mais il n'y en avait jamais assez, et c'était la même chose pour tous les autres produits alimentaires. Même si la disette n'était pas un fléau exclusivement limité à l'Ancien Monde, Richard jugeait illogique qu'on vende à bas prix une marchandise indisponible. La loi imposait que les pauvres ne meurent pas de faim, un principe incontestable en soi, mais dans la réalité, elle avait pour résultat la multiplication des déshérités dans les rues et les maisons glacées de la ville. Le véritable prix d'une législation idéaliste était le triomphe de la famine et de la mort. Du coup, tous ceux qui défendaient les positions philosophiques de l'ordre devenaient complices d'un système qui fabriquait inlassablement de la pauvreté et du désespoir. Aujourd'hui, pratiquement à chaque coin de rue, on trouvait du pain en abondance et la famine n'était plus qu'un horrible souvenir. Il était fabuleux de voir à quel point la liberté rimait avec l'abondance. Dans cette cité naguère tellement sinistre, tout le monde souriait. Pas mal de gens s'étaient opposés à la révolution, car ils refusaient de voir les choses changer. Parmi eux, beaucoup pensaient que l'humanité était pervertie et méritait de souffrir. Pour eux, le bonheur et l'épanouissement étaient des péchés parce que les individus ne pouvaient pas améliorer leurs conditions de vie sans léser les autres. À leurs yeux, l'idée même de liberté individuelle était un sacrilège. La plupart de ces rétrogrades avaient perdu la partie. Tués pendant les combats ou chassés de la cité, ils n'avaient plus aucun moyen de nuire. Ceux qui s'étaient battus pour la liberté connaissaient la valeur de ce qu'ils avaient obtenu. Richard espérait qu'il ne laisserait personne leur arracher ce bien inestimable. Alors que ses amis et lui traversaient les plus vieux quartiers de la ville, il remarqua que la plupart des bâtiments, récemment ravalés, avaient un air pimpant inhabituel. Repeints avec des couleurs vives, les volets donnaient un petit air de fête à ces austères immeubles. Les maisons brûlées pendant les émeutes étaient presque toutes reconstruites. Ayant connu Alter Rang avant sa libération, le sourcier avait du mal à croire qu'une telle métamorphose se soit produite. La joie était partout, chantant un vibrant hommage à la vie. Hélas, l'authentique satisfaction de gens qui visaient à satisfaire leurs propres intérêts et à vivre pour eux-mêmes éveillait la mesquine jalousie de certains. Les zélateurs de l'ordre pensaient que l'humanité était mauvaise par nature, et ils ne reculeraient devant rien pour en finir avec ce qu'ils tenaient pour le blasphème ultime, le bonheur individuel. Alors que les quatre compagnons s'engageaient dans une large avenue, Victor s'immobilisa soudain. « Je dois aller voir la famille de Ferrand et celle des autres hommes. Si tu es d'accord, Richard, je préfère être seul pour leur annoncer la terrible nouvelle. » Apprendre un décès et recevoir en même temps d'importants visiteurs n'est pas facile à vivre. Richard trouva bizarre d'être considéré comme un important visiteur, surtout dans des circonstances pareilles. Mais ce n'était sûrement pas le moment de discutailler sur ce sujet. « Je comprends, Victor. Mais j'espérais que plus tard, eh bien, si tu voulais leur dire un petit mot, ces gens seraient réconfortés de t'entendre louer la bravoure de ces hommes. » Tes paroles salueraient leur mémoire. Je ferai de mon mieux, mon ami. D'autres personnes doivent être informées de mon retour et elles voudront te voir. Richard désigna Kara et Nietzsche. Je désire leur montrer quelque chose, par là, droit devant nous.
L'esplanade de la liberté? Le sourcier hocha la tête.
Je vous y rejoindrai dès que j'en aurai terminé. Victor s'éloigna, ses pas résonnant sur les pavés de la rue.
« Que voulez-vous nous montrer ?»
demanda Kara à son seigneur. « Quelque chose qui vous rafraîchira la mémoire, j'en suis certain. » Dès qu'il aperçut la statue sculptée dans le plus beau marbre de Kavatura, Richard craignit que ses jambes se dérobent. Il connaissait par cœur les moindres détails de bravoure, jusqu'au plus infime repli de sa robe. Ça n'avait rien d'étonnant puisque la statuette originale était son œuvre.
« Richard, » demanda Nietzsche en le prenant par le bras, « tu te sens bien ?
En parfaite forme,
mentit le sourcier, incapable de détourner les yeux de la statue qui trônait au milieu de la grande pelouse. C'était là, quelque temps plus tôt, que Jagang faisait construire ce qui aurait dû être le siège même de son pouvoir. Un fabuleux palais protégé par un sort temporel afin que l'empereur règne sur le monde jusqu'à la fin des temps. Nietzsche avait amené Richard en alter rang pour le convertir à la glorieuse cause de l'ordre impérial, mais c'était elle au bout du compte qui avait découvert l'importance et la valeur de la vie. Pendant qu'il était prisonnier de la maîtresse de la mort, le sourcier avait travaillé des mois durant à l'érection de ce palais, une ébauche de bâtiment dont il ne restait plus une pierre depuis la Révolution. On avait seulement épargné un demi-cercle de colonnes blanches qui montaient la garde derrière une grande statue de marbre blanc. C'était là, quelque temps plus tôt, que l'étincelle de la liberté avait allumé un incendie salvateur. La statue était un hommage à tous ceux qui avaient péri pour terrasser la tyrannie. En leur honneur, Victor avait baptisé ces lieux « Esplanade de la liberté ». À la lumière du soleil couchant, la statue brillait comme un phare dans la nuit.
« Que voyez-vous ? » demanda Richard.
« Seigneur Hall, »
répondit Kara. Elle posa aussi une main sur le bras du sourcier.
« C'est la statue que nous avons vue lors de notre précédent séjour ici. Celle que les sculpteurs locaux ont créée après la Révolution. »
La seule vue de cette œuvre serrait le cœur de Richard. Sous la robe fine, la féminité du personnage était douloureusement sensible et on aurait cru avoir affaire à une personne vivante.
« Et qu'est-ce qui leur a servi de modèle ?»
Nietzsche et Kara écarquillèrent les yeux.
« Que veux-tu dire ?»
demanda l'ancienne maîtresse de la mort.
« Pour réaliser une œuvre de cette taille, les bons sculpteurs partent en règle générale d'un modèle plus petit. Vous vous souvenez de cette statuette ?»«
Oui, oui !»
s'écria Kara.
« C'était une de vos créations. »«
Exactement.
Kara, nous avons cherché ensemble le bois que j'ai utilisé. C'est même toi qui as déniché le noyer. Il poussait sur une pente juste au-dessus d'une grande vallée. Un épicé à déraciner par le vent lui était tombé dessus. Tu étais là quand j'ai prélevé une partie du tronc de cet arbre mort et tu m'as regardé sculpter la statue. Nous étions assis au bord du ruisseau et nous avons parlé pendant des heures alors que je travaillais.
« Oui, je m'en souviens, »
dit Kara.
« Un moment très agréable dans la nature. »
« J'avais construit une cabane non loin de là.
Pourquoi vivions-nous là à l'époque ?»
Kara ne cacha pas sa surprise. La réponse était tellement évidente qu'elle hésitait à la fournir.
« Quand les habitants d'Anderit ont voté pour se rallier à l'ordre, pas à l'Empire d'Aran, vous avez décidé de ne plus vous mêler des affaires du monde. »
« Si j'ai bien tout saisi, vous avez conclu qu'on ne peut pas forcer les gens à être libres. Pour les aider, il faut d'abord qu'ils aient choisi leur camp. »
Dire calmement à une personne ce qu'elle était censée savoir parfaitement n'était pas agréable. Mais Richard avait compris que les reproches et les imprécations ne raviveraient pas la mémoire de la mort de Sith. De plus, ce qui arrivait, il en était conscient, n'avait rien à voir avec une machination imaginée par les deux femmes.
« Nous avions une raison de plus de nous réfugier dans ces montagnes. Une raison plus importante encore. »«
Vraiment ?»«
Kalan avait été roué de coups par des brutes. Nous l'avons amenée en altitude pour qu'elle soit en sécurité pendant sa convalescence. Ensemble, nous avons passé des mois à la soigner. Mais elle ne se remettait pas, acceptant sans sourciller de dépendre de nous. Elle pensait ne jamais guérir, ne jamais redevenir entièrement elle-même. »
Richard ne parvint pas à dire pourquoi il en était ainsi. Un sujet tellement intime. Les coups de ces hommes avaient fait perdre son bébé à Kalan. Un drame qui l'avait dévasté.
« Et vous avez sculpté cette statuette à son image ?»«
Pas exactement. »
Le sourcier regarda de nouveau la version géante de bravoure. Il n'avait pas voulu représenter directement Kalan, mais en cherchant à reproduire ses principales qualités, le courage, l'indomptable volonté de lutter, la vitalité qui ne se laissait jamais abattre, il avait réalisé son portrait sans le savoir, ni le vouloir consciemment. Ce n'était pas une statue de Kalan, mais l'image même de son âme, la rare force d'un esprit immortalisé dans le marbre.
C'est l'image du courage de Callan, de son cœur, de sa valeur, de son invincible détermination. C'est pour ça que j'ai baptisé la statuette Bravoure. Lorsque je la lui ai offerte, elle a compris le message. Ce présent lui a donné envie de redevenir elle-même, d'être de nouveau une femme forte et indépendante. Bref, elle a recouvré l'envie de vivre, et à partir de là, elle s'est vite rétablie. Nietzsche et Kara semblaient interloqués, mais elles ne contredirent pas Richard. « Si vous demandez au sculpteur où est passé leur modèle, » dit le sourcier en avançant vers la statue, « ils seront incapables de vous répondre. »
« Et pourquoi ça ?»
voulut savoir Nietzsche. Parce que Callan adorait la statuette. Elle était pressée de la récupérer dès que le travail serait terminé, et aujourd'hui mon cadeau est avec elle.
« Ben voyons, »
soupira Nietzsche. « Que signifie cette remarque ?» demanda Richard, le regard noir.
« Quand une personne a des fantasmes, son cerveau fabrique des histoires pour combler les trous. » En d'autres termes, des illusions servent à donner un vernis de rationalité à son délire.
Dans ce cas, où est la statuette?
Je n'en sais rien, Richard. Si les sculpteurs font des recherches, ils finiront peut-être par la trouver.
Les deux femmes semblaient ne pas avoir saisi le véritable sens de cette histoire de statuette. Croyaient-elles qu'ils voulaient seulement récupérer son œuvre?
Ils peuvent chercher 100 ans sans obtenir de résultat.
C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Callan détient la statuette. Je me souviens de sa joie le jour où je la lui ai rendue.
Personne ne la dénichera ni se rappellera où elle est.
Vous ne voyez pas que quelque chose cloche dans la réalité? Ou plutôt ce que nous prenons pour la réalité?
Richard et les deux femmes s'arrêtèrent au pied des marches de marbre.
« La réalité se porte très bien, »
dit Nietzsche.
« C'est toi qui as un problème. »
Elle désigna la statue.
« Une fois le travail terminé, les sculpteurs ont détruit ou perdu leur modèle. Quelle importance puisque la version géante est visible partout sur l'esplanade ?»«
Quelle importance? Tu veux dire que mes propos n'ont aucun sens? Je me souviens du sort de la statuette et je suis bien le seul. J'essaie de vous démontrer que je n'ai pas imaginé Callan. » « Quelque chose ne va pas et vous devez me croire !»
Nietzsche glissa un pouce sous la lanière de son sac pour soulager un peu ses épaules d'un poids épuisant.
« Richard, ton subconscient sait sûrement ce qu'il est advenu de la statuette qui, je le répète, a dû être détruite ou égarée. Mais tu te sers d'un détail insignifiant pour étayer l'incroyable histoire que tu as rêvée pendant que tu luttais contre la mort. Pour te rassurer, tu inventes des théories de plus en plus fumeuses. »
C'était donc ça. Nietzsche et Kara n'avaient pas du mal à comprendre, elles saisissaient parfaitement ce qu'ils disaient, mais n'en croyaient pas un mot. Richard prit une grande inspiration. Il n'allait pas baisser les bras si vite.
« Pourquoi aurais-je inventé une histoire pareille ?»«
Richard, » fit Nietzsche, « abandonnons ce sujet si tu veux bien. » Si j'en dis davantage, je te blesserai inutilement.
Je t'ai posé une question. Tu vas répondre oui ou non?
Nietzsche consulta Kara du regard, puis elle se jeta à l'eau.
Tu veux savoir ce que je pense? Eh bien, tu t'es souvenu de cette statue quand tu étais dans le coma, et tu l'as intégrée à ton rêve. En reliant les uns aux autres des détails qui n'ont aucun rapport, tu as imaginé une fiction qui te semble plus réelle que le monde qui t'entoure. La statuette est un moyen de donner de la substance à tes fantasmes, rien de plus.
« En quoi ça ?»
commença Richard bouleversé.
« Tu cherches à t'accrocher au rêve, Richard, et c'est normal après ce que tu as traversé. »
Le sourcier écarquilla les yeux.
« Navré de ruiner tes illusions, essaie de me pardonner. »
Richard détourna les yeux. Comment pouvait-on pardonner à une amie qui vous traitait d'affabulateur? Et comment se pardonner d'être incapable de convaincre quelqu'un qu'on ne mentait pas?
Craignant que sa voix trahisse son trouble, Richard leva les yeux vers l'escalier. En montant les marches, il se demanda s'il pourrait de nouveau regarder Nietzsche ou Kara en face, sachant qu'elle le prenait pour un fou. Quand il fut sur l'esplanade, il entendit derrière lui les pas des deux femmes
qui finissait de gravir les marches. Pour la première fois, il s'avisa que quelques rares citadins se promenaient sur le site du palais avorté. De là où il était, en hauteur, Richard voyait clairement le fleuve qui serpentait au milieu de la ville. Des oiseaux volaient à ras de l'eau, se dirigeant sans doute vers les vallées boisées verdoyantes qu'on distinguait dans le lointain. Bravoure semblait plus glorieuse que jamais à la lueur du crépuscule. Richard s'appuya d'une main au socle de la statue. À certains moments, le chagrin lui serrait si fort la gorge qu'il redoutait de ne plus pouvoir respirer. Kara vint se camper près de lui, comme toujours.
« C'est ce que tu penses aussi ?» demanda-t-il. « Tu me prends pour un cinglé ? La convalescence de Kala ne te rappelle rien ? Et la statuette ? Elle n'a pas ravivé tes souvenirs ?»«
Depuis que vous en avez parlé, Seigneur Hall, je me souviens d'avoir découvert le noyer. Je revois votre sourire lorsque je vous l'ai montré. Vous étiez très content de moi. J'ai également en mémoire notre conversation pendant que vous sculptiez.
Mais vous avez créé beaucoup de statuettes durant ce fameux été. Juste avant que Nietzsche me capture.
C'est ça, oui.
Si Kala n'existe pas, comment expliques-tu que Nietzsche ait pu me faire prisonnier alors que tu étais là pour me protéger ?
Troublé par le ton agressif de son seigneur, Kara prit un court moment avant de répondre.
« Elle a utilisé sa magie. »«
Vraiment. Les morts de Sith sont l'arme absolue contre la magie. Tu as oublié ça aussi ?
Dommage, puisque c'est la raison même de leur existence.
Défendre le seigneur Ral quand des détenteurs du don l'attaquent. Nietzsche est arrivé avec l'intention évidente de me nuire. Tu étais là et tu ne l'as pas arrêté. Pourquoi ?»
Une ombre passa dans le regard de Kara, quelque chose qui ressemblait à de l'angoisse.
« Parce que j'ai failli, Seigneur. J'aurais dû la neutraliser, mais je n'ai pas réussi. Chaque jour, je souhaite que vous décidiez enfin de me punir pour cette indignité. »
La mort de Sid devint rouge comme une pivoine.
« Par ma faute, Nietzsche vous a capturé et tenu loin de nous pendant près d'un an. » Votre père m'aurait fait mettre à mort à son retour, mais après m'avoir torturé au point que je l'implore de me tuer, et il aurait eu raison, je méritais de souffrir.
Kara, coupa Richard, ce n'était pas ta faute. C'est tout l'intérêt de ma question. As-tu oublié que tu ne pouvais rien faire contre Nietzsche ?
J'aurais pu, mais j'ai été minable.
C'est faux. Nietzsche avait jeté un sort à Kalan. Si nous avions tenté quelque chose, elle l'aurait tué.
« Que racontes-tu là ? »
s'écria l'ancienne maîtresse de la mort.
« Tu as lancé à Kalan un sortilège qui agissait à distance, te permettant de la tuer d'une simple pensée si je refusais de t'obéir. C'est pour ça que Kara et moi n'avons rien tenté. »«
Et selon toi, quel genre de sortilège peut accomplir un tel miracle ? » ?»«
Un sort de maternité. » »«
Pardon ? » ?»«
Un lien magique à travers lequel tout ce qui t'arrivait arrivait également à Kalan. Si Kara ou moi t'avions tué, ma femme serait morte à la même seconde que toi. Idem si nous t'avions blessé. Je devais te suivre, sinon tu aurais utilisé ce lien pour l'exécuter, et pendant un an j'ai veillé sur toi pour la protéger. »
Nietzsche secoua la tête, incrédule, puis elle se détourna et contempla les collines dans le lointain.
« Kara, ce n'était pas ta faute. »
Richard prit la mort de Sid par le menton et la força à le regarder dans les yeux.
« Nous étions impuissants tous les deux. Tu n'as pas failli à ton devoir. »«
Seigneur Hall, ne pensez-vous pas que je meurs d'envie de vous croire ? Si vous disiez vrai, ce serait un tel soulagement pour moi. » »«
Si tu ne te souviens pas de ce qui s'est vraiment passé, comment Nietzsche a-t-elle réussi à me capturer d'après toi ?»«
Grâce à la magie. »
« Quelle magie ?»«
Je n'en sais rien. Seigneur, je ne suis pas experte en ce domaine. Elle a recouru à la magie, voilà tout ce que je peux dire. »«
Quelle magie, Nietzsche ?»
lança Richard.
« Comment t'y es-tu prise ? Pourquoi Kara et moi avons-nous été impuissants ?»«
Richard, ça remonte à un an et demi. Je ne me rappelle plus quel sort j'ai utilisé ce jour-là. » De toute façon, la tâche n'était pas si compliquée que ça. Tu ne contrôles pas assez bien ton don pour te défendre contre quelqu'un d'expérimenté comme moi.
Si je t'ai emprisonné dans une toile de magie, tu as dû te retrouver sur le dos d'un cheval avant d'avoir compris ce qui t'arrivait.
Et Kara, pourquoi n'a-t-elle rien pu faire?
Eh bien...
Nietzsche ne cacha pas que fouiller ainsi dans sa mémoire l'agaçait.
Sans doute parce que je te tenais en mon pouvoir et qu'elle savait que je te tuerais si elle tentait quelque chose. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Nietzsche vous tenait comme elle vient de le dire,
intervint Kara.
Si elle avait utilisé son pouvoir contre moi, elle aurait couru à sa perte, mais c'est vous qu'elle a pris pour cible.
Du bout d'un doigt, Richard essuya la sueur qui perlait sur son front.
Tu es entraîné à tuer à main nue, rappela-t-il à la mort de Sith. Pourquoi ne lui as-tu pas lancé une pierre à la tête?
Au moindre geste suspect de sa part, dit Nietzsche, je t'aurais blessé ou tué.
Mais ensuite, Kara t'aurait taillé en pièces.
En ce temps-là, ma vie ne comptait pas, tu le sais très bien.
Richard ne put rien objecter. À cette époque, Nietzsche n'accordait aucune importance à la vie, la sienne comme celle des autres. C'était même ça qui la rendait terriblement dangereuse.
Mon erreur fut de ne pas attaquer Nietzsche avant qu'elle vous ait en son pouvoir, Seigneur. Si j'avais pu la forcer à me jeter un sort, je l'aurais vaincue. C'est la mission d'une mort de Sith et j'ai échoué.
J'ai été trop rapide, c'est tout, dit Nietzsche.
Kara. Il arrive qu'on n'ait aucune chance de gagner, même sans commettre de faute. Parfois, il n'existe pas de solution. C'était le cas pour vous deux ce jour-là.
C'était sans espoir, songea Richard. Chaque fois qu'il coinçait les deux femmes, les poussant dans leur dernier retranchement, elles réussissaient à se défiler.
Mais comment était-il possible qu'elles aient tout oublié? S'il trouvait la cause de la catastrophe, il réussirait peut-être à tout arranger.
Soudain, il se souvint de quelque chose qu'il avait raconté à ses deux compagnes deux nuits plus tôt, dans leur abri de fortune.